Mag. Tous les jours,
17h, 17h30.
La vie du Tarn-et-Garonne.
Adilto, bonjour. Salut Aurélien. Salut tout le monde. On est en direct du marché des faiseurs singuliers à Montauban et on est plutôt pas mal installé. On s'est fait une petite frayeur, dites donc, il y a quelques instants parce qu'on. Pour pouvoir parler dans le poste, il nous faut la fée électricité. Et il y a quelques minutes de cela, eh bien, elle nous faisait défaut, la fée électricité. Mais la voici de retour. Et ce marché de Noël, place nationale, ce marché de Noël des artisans d'art, des artisans et des producteurs de l'association des faiseurs singuliers, est maintenant illuminé et brille de tout feu. C'est magique, c'est magnifique. Et c'est depuis cet endroit-là que... j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Nous allons faire la connaissance justement dans quelques minutes avec quelques-uns de ces artisans d'art qui sont exposés ici. Vous entendrez également le travail d'un ou deux de nos jeunes stagiaires découverte entreprise 3e qui ont bossé sur la thématique de Noël. Qu'est-ce qui va se passer d'autre dans cette première demi-heure? Il y aura également un petit portrait de Luc Pétex qui est l'invité d'honneur du salon des artistes indépendants qui se trouve à deux rues d'ici. À l'ancien collège, qui est un autre endroit où vous pouvez faire, pourquoi pas, vos emplettes. On commence en musique, c'est ça, hein, Aurélien, tout va bien? Et puis comme ça, après, on commence à faire gentiment, doucement connaissance avec un monsieur qui fabrique des luminaires à partir... Marlon Roudette sur CFM Radio. Voilà une chanteuse qui a sans doute, comme vient de me le souffler hors antenne, Jean-Marc Longueville. Ah, c'est un mec en plus. Bah, il a longuement écouté Tracy Chapman. Hein? Non, c'est vrai. Tu te trouves pas aussi, toi? Ça ressemble un peu à du Tracy Chapman.
Alors, non, pas spécialement. Pour moi.
Bah, si. non, mais dites donc. Jean-Marc Longueville, hop. Et Patricia Rovert. Bonsoir.
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 Merci d'être là pour faire connaissance. Vous êtes deux artistes, artisans d'art, présents ici sur le marché des faiseurs singuliers. Alors, je sais pas, on va dire honneur aux dames,
hein. Absolument.
Patricia. Patricia avec un Z. Hein.
Oui.
Vous êtes céramiste.
Oui.
Et alors, j'aimerais que vous me parliez de cette pratique et parce qu'il y a tellement de façons de faire de la céramique. Il y en a certains qu'on va pouvoir dire tiens c'est des potiers, d'autres on va pas pouvoir. Vous quand on voit votre stand, c'est plutôt la matière. Donc c'est pour ça que je dis vous êtes céramiste plus que potière. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire.
Oui et non. Alors le fait de la céramique, la seule on parle de céramique quand on arrive à une haute température en fait. La terre qui cuit à 1300 degrés, c'est une céramique. Pour cela, bah, il faut utiliser du grès ou de la porcelaine. Si vous utilisez de la faïence, ça ne peut pas marcher. La faïence, c'est une terre qui se cuit à basse température.
D'accord.
Voilà. Okay. Basse température, ça veut dire pas au-dessus de 1200 degrés.
Ok. Vous avez votre propre four dans, oui. Dans votre propre atelier. Depuis quand est-ce que vous pratiquez
Alors moi, je pratique depuis 5 ans.
Ouais.
Donc, j'ai rencontré un artiste céramiste japonais. Et donc, j'ai appris avec lui pendant 5 ans. Et la particularité de ce travail, c'est indépendamment de la technique de travail, c'est au niveau de la cuisson aussi. Parce qu'on cuit nos pièces dans un four à bois. C'est un four qui s'appelle Anagama, donc four japonais. Et c'est une cuisson qui dure 5 jours et 5 nuits, sans interruption. Aucun dépôt de cendre, aucun émail, rien. Toutes les couleurs et ce que vous voyez sur les pièces, ce ne sont que les dépôts de la cendre du bois qui se posent sur la pièce et qui... à un certain moment de température, donc au-delà des 1200, vers les 1280 degrés, la cendre rentre complètement en fusion avec la terre. Voilà.
D'accord. C'est ce qui donne ces reflets.
Tout à fait.
Et ces couleurs comme ça qui se mélangent.
Oui.
Il y a une partie qui est laissée finalement au hasard.
Complètement.
De la cuisson.
Complètement.
C'est un peu justement comme les émaux, non? C'est un peu le même principe, non?
Pas vraiment, parce qu'au niveau de l'émail, le céramiste sait quelle couleur il va donner à sa pièce. Alors après, ça peut être plus ou moins réussi dans le sens, je sais pas moi, ceux qui recherchent un rouge. Vont faire des émaux, et c'est pour ça que c'est très important pour eux d'écrire toujours leur formule, parce que s'ils l'écrivent pas, ils ne vont jamais pouvoir la retrouver, c'est jamais
D'accord.
pareil. Donc ils sont à la recherche d'un rouge, par exemple, ou d'un noir, ou d'un bleu, mais ce qui va sortir, ça va être du bleu. Alors ça va peut-être être raté, mais ce sera du bleu raté.
Ouais. Voilà. Et vous choisissez pas la couleur de toute manière, c'est toujours dans cette espèce de... Alors si c'est plus la cendre, ça va être plus dans le gris, si c'est plus la terre, ça va être plus dans le marron, et ça, c'est des teintes, toutes vos céramiques, toutes vos pièces,
ouais.
Là-bas, c'est des teintes qui vont du marron au gris, en passant par le bleu. Enfin, il y a quelque chose d'un peu bleuté, comme ça.
Oui, hein. Sur certaines, oui, mais là, c'est pareil, je peux pas vous dire pourquoi, j'en sais rien. C'est pas moi. Ça dépend aussi, selon la saison, parce que moi, je fais des cuissons. Alors, faut savoir que moi, je fais 3 cuissons par an, j'en fais pas plus. Bah parce que pour mon four qui n'est pas grand, qui fait 1 mètre cube de volume,
ouais,
voilà, de contenance de laboratoire, comme on dit, moi j'ai besoin de presque 8 stères de bois.
Ah oui, quand même.
Mmh, voilà.
C'est pas très écolo votre truc.
Ben, on peut pas tout avoir non plus, hein. Et donc voilà, donc je peux pas non plus cuire toutes les semaines.
D'accord, hein. D'accord. Alors, je vais mettre en parallèle le travail de Jean-Marc Longueville, si vous voulez bien. Vous, donc, vous êtes plasticien. Le travail qu'on voit sur votre stand juste à côté là du studio CFM, c'est un travail sur du luminaire à base de plastique recyclé. Et là aussi, c'est très coloré. Alors, on va parler après justement de comment vous obtenez vous ces couleurs-là. Mais d'abord. Ben, votre pratique elle-même, là, vous faites ça depuis combien de temps?
Alors, je fais ça de façon plus continue depuis environ 2 ans. Avant, je faisais ça de façon loisir, pour le fun, parce que j'avais une autre activité principale, du moins. Donc, comment je fais ça? Je travaille avec exclusivement de la récup. J'y tiens beaucoup. Même si après on pourra déborder et que c'est pas toujours hyper écolo dans la façon dont je travaille, c'est exclusivement de la récup de gens qui sont sur le Tarn-et-Garonne, qui font des enseignes publicitaires, banques, assurances, boulangeries, etc. Et lorsqu'elles sont cassées, il y a un turnover des enseignes et je récupère ce qui est cassé ou ce qui a été brûlé par le soleil. Et donc je remodèle ce plexi pour en faire les lampes qui sont là sur le stand, quoi.
C'est un travail qui se fait à partir de la chaleur, là aussi.
C'est un travail qui se fait au chalumeau et au décapeur thermique. Au chalumeau dans un premier temps pour travailler la forme, et le décapeur thermique pour aller sur les précisions lorsque je veux faire une pointe, lorsque je veux faire quelque chose, parce que ça brûle beaucoup moins que le chalumeau.
D'accord.
Alors je travaille avec un chalumeau qui est installé sur un trépied. Que j'ai modifié, on pourrait appeler ça plus un lance-flamme qu'un chalumeau. Je l'ai percé pour avoir, parce que le but c'est d'avoir à environ 1 mètre de flamme bleue et 10 ou 15 centimètres de flamme jaune. Puisque là on se retrouve sur le principe de la casserole sur le gaz, c'est le bleu qui chauffe et c'est le jaune qui noircit.
Ouais.
Donc pour éviter que ça noircisse trop, je travaille sur le bleu. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Et la couleur, parce que vos pièces sont très très colorées, sont des couleurs comme ça très vives, elles sont produites comment, ces couleurs-là?
Alors les couleurs, je les travaille ou au pistolet ou à la bombe, suivant la qualité du plastique.
Ah oui,
parce
d'accord.
que j'essaye, lorsque je le peux, de mettre la couleur lorsque le plastique n'est pas encore trop refroidi, pour que la couleur soit bue par le plastique, de
que façon que ça s'intègre un peu
que
dans,
ça s'intègre
dans
bien,
la matière,
voilà, et que la couleur ne parte pas au bout de 6 mois, ouais, un an ou autre, ou sur une chute. Et donc là, j'intègre du travail au pistolet, à la bombe, suivant réellement le plastique. Il y a du plastique qui réagit mal à la bombe parce que ça glisse, il est trop lisse, et d'autres, c'est au pistolet. à 70%.
D'accord. Une pièce comme celle qui est posée devant nous, par exemple, qui intègre le panier cadeau des faiseurs singuliers qu'on offrira demain dans l'émission, non après-demain, vendredi dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, un très très beau panier là qui est, et dans ce panier il y a une de vos lampes qui est alors multicolore pour le coup. C'est combien de temps de travail?
Si je compte le temps de sèche qui n'est pas de l'activité réellement, une fois que j'ai fait la couleur, il y a le temps de sèche avant de mettre la partie électrique. Donc si on décompte ce temps de sèche, celle qui est là, c'est environ deux heures de travail.
D'accord, deux heures de travail, sans compter non plus le temps de la récup parce qu'il faut trouver la matière. Ou alors vous êtes arrivé à un point où les gens vous emmènent directement leur chute
Non, ils ne m'emmènent pas, ce serait sympa, mais ils ne le font pas. mais j'ai un réseau de gens qui fabriquent des enseignes publicitaires. Quand ils en ont suffisamment, ils me passent un coup de fil ou ils me les mettent de côté. Donc je galère pas pour récupérer. D'accord. Je pense que je vais galérer dans les années à venir parce que l'aluminium est en train de prendre le pas sur le plastique pour les enseignes publicitaires. J'en aurai un peu moins, certainement.
Il va falloir que vous changiez de matière à ce moment-là.
Peut-être,
vous pourriez...
mais je l'ai déjà envisagé.
Oui, vous l'avez déjà envisagé.
Oui.
Et vous, Patricia, vous changeriez de matière ou c'est vraiment... Il y a quelque chose dans la terre.
C'est la terre.
Pourquoi cette matière-là?
Parce que je crois que c'est le matériau qui est le plus malléable, qu'on peut changer continuellement. Tant que c'est pas cuit, on peut toujours refaire. On peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Puis il y a cette douceur. C'est quelque chose de viscéral. C'est vraiment au niveau du toucher.
Elle vient d'où, la terre?
Alors la terre, je l'achète. Il y a un distributeur en France qui s'appelle Solargile qui distribue des terres qui viennent de carrières. Hein. Mais je commence petit à petit aussi à aller les chercher. Voilà. Donc par exemple, en allant marcher en Aubrac, j'ai vu de la superbe terre rouge un moment sur le bord du chemin. J'en ai pris un seau. Je l'ai ramené à la maison et j'ai fait un test et ça marche, donc voilà.
Alors la difficulté de ces terres justement qu'on va pas acheter, c'est qu'elles vont peut-être avoir des imperfections qui risquent de casser à la cuisson. Hein, s'il y a un petit caillou qui va pas monter à la même température que la terre qui est autour, et ça va se fêler.
Donc
quoi.
C'est pour ça je la filtre, je la passe au tamis. Enfin voilà, je lui fais.
Ça c'est du boulot, Monsieur Langueville, vous voyez.
Mais tout est du boulot. Tout à l'heure, je voulais revenir juste sur ce que j'avais dit dans le but de changer de matière. Ce que j'aimerais, dans un premier temps, avant de changer de matière, parce que le plastique j'aime bien et que si j'ai fait quelques années là-dessus, c'est pour pouvoir maîtriser, aller plus loin, c'est peut-être un mélange de matière, mais garder quand même le plastique pour le mélanger à du bois, du métal. Voilà, c'est pas changer de matière. Je reprends un peu.
On marque une petite pause pub et puis on revient en conversation dans un instant avec des artisans d'art du marché des faiseurs singuliers. Je vous rappelle que CFM est en direct jusqu'à Noël, place nationale à Montréal. Tu peux, du moment que tu nous amènes un coup à boire, mon cher Pierre-Marc. Un petit rosé là, c'est l'heure, non? Non? Vous êtes bien sur CFM Radio en direct d'une négociation pour avoir un coup à boire avec le coutelier fou qui fait partie des faiseurs singuliers. On est toujours avec Patricia Rover, céramiste, et Jean-Marc Longueville, plasticien lumineux. Est-ce que ça va, ça?
Plasticothérapeute, lumineux, je sais pas comment on peut définir ça.
J'aimerais que vous me disiez l'un et l'autre, finalement, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi c'est venu dans votre vie? Pourquoi à un moment vous vous êtes mis, vous Patricia, à faire de la céramique? J'imagine que c'est pas un simple calcul. Vous vous êtes pas dit tiens c'est pas monétaire. Enfin je vais pas vivre de ça. Surtout si c'est il y a 5 ans que vous vous y êtes mise.
Non, bon, déjà c'est un rêve que j'avais, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Donc, et puis quand je suis arrivée dans ce village,
rappelez le village.
Ville-Audric, donc près de Fronton, où il y a du très bon vin.
Ouais.
Et puis il s'est avéré que Rizzo Takahashi, qui est donc cet artiste céramiste, était là. Et voilà, donc l'aventure a commencé au début comme un hobby, hein, un peu comme comme vous, et puis très vite c'était plus seulement ça, quoi. Ouais. J'avais besoin de plus tout le temps.
Et alors ça veut dire quoi? C'est combien d'heures
Tous les jours, c'est mon travail.
Et il se passe quoi dans votre tête quand vous fabriquez
Rien, c'est ça qui est bien.
Ouais.
Il se passe rien.
Le vide. Mais d'ailleurs, c'est très zen finalement,
oui,
hein, cette histoire-là.
Et puis c'est un travail de. Enfin, moi, je suis toute seule, en silence.
C'est monastique.
Voilà, ouais, assez, oui.
Et pour vous, Jean-Marc?
C'était quoi la question
initiale? La question, c'est à quoi ça sert finalement? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui se passe?
À titre individuel.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est de la création en fait. Moi, c'est une reconversion totale. J'ai tout le temps vécu du commerce avec beaucoup de speed. Je travaillais dans une maison de disques major américaine pendant 20 ans. Oui, on peut la citer, c'est Warner.
D'accord.
Donc, bon, beaucoup.
Qu'est-ce que vous faisiez chez Warner?
Animateur commercial et les derniers temps de la promotion.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, c'est un univers effectivement qui est,
voilà,
qui
donc,
est très très speed. Ouais.
Bon, entre-temps, il y a eu d'autres activités, mais qui sont restées essentiellement dans le commerce, et à un moment, ras-le-bol du commerce. Quoi.
Ouais.
Donc, sachant que, oui, pour en vivre, c'est relativement difficile. L'art mineur, l'art quand on n'est pas connu, je crois que tout le monde le sait, tout le monde a ses moments de galère. Hein. Mais en même temps, on est bien quand on fabrique, il y a une autosatisfaction, on est content d'une pièce ou on n'est pas content d'une pièce qu'on a fabriquée.
Est-ce que vous avez un premier public ou une personne à qui vous montrez le résultat au début pour vous,
Patricia? Bah oui, d'abord il y a les amis quand même,
ouais.
Voilà, qui sont les premières personnes.
Ils vous ont encouragé dès le début, par
oui,
exemple?
Oui, tout à fait, oui.
Merci, ouais, Pierre, ouais. Bravo.
Ouais, c'est un beau bruit, ça.
C'est bon, ça, c'est un beau bruit. Ouais.
Un bruit de Villaudric.
Exact.
C'est un petit domaine de Biernes, ça.
Ah, bah,
ah, bah, impeccable.
Le rosé, cette année qui est excellente.
C'est l'heure du rosé de chez Biernes, tout va bien.
Oh,
bravo. Merci, Pierre. Qu'est-ce qu'on disait?
Oui, les amis, au début, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui encouragent,
bah,
aussi,
oui,
qui rassurent,
bah,
un peu.
Bah, oui.
Et pour Jean-Claude?
Je préfère Jean-Marc, c'est le prénom que m'ont donné mes parents.
Pardon. Pardon, Jean-Marc. Non, mais il m'a troublé avec sa bouteille de Biernes.
Oui, au départ, je montrais ça à des proches. Sœurs, amis, copains, copines.
Ils en ont tous d'ailleurs chez eux.
Un petit cercle. Maintenant, je le montre plus avant. Ouais. Ça me paraît pas utile. Je sais à peu près si j'ai manqué une pièce. On n'a pas besoin de me le dire. Je le sais.
Ouais, ouais, ouais. C'est juste au début. Ou peut-être vous y retournerez le jour où vous faites. Comment on dit, une autre collection où justement où vous changerez de matière,
ouais,
vous changerez, voilà, de technique.
Voilà, si je dois changer, faire un mélange de matière, là, je redemanderai l'avis à des proches qui auront un œil. Je cherche des gens qui auront un œil neutre, quoi, pas le copain qui me dit ouais c'est super ce que tu fais parce que lui sait rien faire entre guillemets ou n'est pas du tout dans ce milieu-là. Non, je cherche pas de l'autosatisfaction ou qu'on me dise c'est bien si c'est pas bien, quoi. Donc c'est pour ça que là j'y arrive tout seul. Je sais quand j'ai chié une pièce.
Alors moi j'imagine, vous me dites si je me trompe, l'atelier de Patricia Rover très zen justement, très épuré, avec pas grand chose dedans, et l'atelier de Jean-Marc Longueville avec un bordel éparse, très. Très,
c'est ce que vous imaginez. Pourquoi
oui.
J'ai pas l'air comme ça, discipliné,
bien rangé. Très post-industriel, quoi, dans un espèce de hangar comme ça.
Non, c'est vrai que c'est pas toujours dans un hangar, parce que j'aime bien, lorsque la météo le permet, travailler en extérieur. Bon, pour plusieurs raisons, j'aime l'extérieur.
Ah, et puis
les émanations de plastique, même si je me masque, j'ai deux paires de gants, un truc comme ça, c'est bon. Je préfère être le plus possible en extérieur.
Ouais.
C'est pas le bordel pour autant, l'extérieur. mais par contre, c'est pas, contrairement, je pense à Patricia, moi c'est pas forcément dans le zen, quoi. J'aime bosser en écoutant Lynyrd Skynyrd de Stevie Earle, et que ça envoie quand même, quoi.
Et Patricia?
Oui, bah, oui. Mon atelier est relativement en ordre quand même, oui. Bon, des fois non, hein. Des fois, parce que quand même en travaillant, j'utilise quand même beaucoup d'outils. Et pour une même pièce, bah, une fois, il faut que je prenne ci, je prenne ça. Donc, il y a un moment, il y a quand même un peu de bordel sur la table, mais c'est au moment où je travaille, quoi. Après, non. Ouais.
Bon, et ben voilà. Et puis vous êtes tous les deux, Jean-Marc, Patricia, sur le marché des faiseurs singuliers jusqu'au 24 décembre.
Ouais.
Hein, c'est ça.
C'est ça, ce qui est prévu vers 15-16 heures. On s'en va. On espère que beaucoup de gens viendront nous voir avant.
Et ben oui, et que d'ici là, vous aurez même pas à remballer puisque tout aura été vendu.
Tout aura été vendu.
Effectivement.
Tout. Non, mais c'est une bonne idée de cadeau de faire des pièces, d'offrir des pièces uniques. Voilà.
Tout à fait.
Absolument.
Hein. Parce qu'en plus, c'est un petit peu un investissement. Hein. Une lampe Jean-Marc Longueville, on ne sait pas. Peut-être que dans 10 ans, ça va valoir comme Philippe Stark.
Pourquoi vous dites peut-être? Parce
c'est
que
sûr.
Certainement.
Pardon. Merci en tout cas d'être venu ici.
Et merci de votre accueil aussi.
Avec plaisir. Et repartez pas sans qu'on boive un petit coup quand même.
Ça c'est clair.
C'est l'heure. On a pas le temps du coup de projecteur. D'accord. Alors, ce qui veut dire que. Qu'est-ce qu'on fait? On a 1 minute 30. Pour boire un petit coup de domaine de Biarnès, pour dire que si vous venez ici, Place Nationale, sur le marché des faiseurs singuliers, n'oubliez pas de demander à acheter votre ticket de tombola. Il y a un petit ticket de tombola. Combien ça coûte le ticket de tombola, Michel? 1 euro. 1 euro. Alors, il y a un petit ticket de tombola, vous achetez ça. Et il y a une vitrine dans le marché où il est exposé tout ce qu'il y a à gagner, et c'est un lot qui est très important, puisque je sais pas, j'ai entendu parler de plein de cadeaux, je sais pas. Dans les plus de 400 euros, hein? Combien? 4 fois 80 euros. Voilà, c'est ce qu'il y a à gagner en venant jouer à la tombola. La suite, c'est avec Tony Smith dans quelques minutes, et d'autres amis des faiseurs singuliers. C'est vos critiques de films lues à l'antenne tout à l'heure. Et c'est les jeunes en stage découverte entreprise 4e qui vont, pour certains, passer à la radio ce soir. Je mets ça pour la pression, les gars. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 4e?
Ouh là là.
Attention, vous êtes en 3e.
Ouh là là.
Pardon.
Et à gagner aussi un beau cadeau, Rémi, vendredi soir dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste?
Ouais.
Puisque tous les exposants là nous ont fait un beau petit panier, ils ont mis chacun un cadeau et ce cadeau sera remporté du coup vendredi soir entre 17h30 et 19h.
Le panier gourmand des faiseurs singuliers. Le qu'est-ce qu'on déguste de vendredi, ce sera un spécial repas de Noël. Voilà. Dans la tradition.